Quand on vient me voir, des fois, on me dit, ah là, mon Dieu, je viens de voir, t'es mon dernier espoir. Non, non, ton dernier espoir, c'est Allah, déjà d'une. Et de deux, moi, je suis qu'une cause parmi tant d'autres. Mon but, vraiment, c'est agrandir la communauté de notre prophète, par les salatu salam, tu vois. C'est-à-dire que pour moi, les mariages, c'est des enfants, tu vois, cette communauté qui est bancale, là, et qui manque de famille, qui manque de couple, ça me convient pas, en fait. Subhanallah, je me dis. L'islam, c'est la famille. Et pour qu'on soit tous les musulmans bien et équilibrés, bah, il faut qu'on aide les gens à créer leur famille. Dans la vie, on est comme des oufs, on a besoin de s'armer. La femme, on lui a donné voilà les armes, tu vois, pour réussir. Soit plus bonhomme, soit plus caractériel. Pour te faire respecter au travail, il faut que tu tapes du poing. Sinon, t'as pas ce qu'il te faut. Faut toujours se battre. Mais sauf que justement, il y a un endroit où il faut pas se battre, c'est quand t'es en face d'un prétendant.
Assalam alaikum à toi. Moi, c'est Madina. Si tu es convaincue du bien fondé du mariage, mais que tu traverses quelques secousses durant ton voyage, alors tu es au bon endroit. Halal Love, c'est plus qu'un podcast, c'est une mission. Celle de nous rappeler la beauté, la singularité et la force qui se cachent derrière cette union sacrée. Chaque semaine, je reçois des couples, des professionnels, des savants, des hommes et des femmes, afin de converser sur le sujet. Ensemble, on cherche à comprendre pourquoi c'est compliqué, mais surtout, comment mieux y arriver. Bienvenue dans Halal Love, un rendez-vous hebdomadaire où l'amour est prioritaire et Allah, notre seul repère. Pour certaines personnes, réaliser sa mission de vie, c'est dire oui à tout un tas de soucis, mais à de belles joyeusetés aussi. Sabrina, vous le verrez, c'est une femme passionnée par le bien fondé de ce qu'elle fait. Agrandir la communauté de notre prophète bien-aimé en accompagnant les célibataires dans leur désir de se marier. Ancienne informaticienne, elle a fondé l'agence matrimoniale musulmane Abelni il y a bientôt 10 ans. Entre manque de repères et amas de critères, elle en a vu beaucoup. Mais Sabrina, ce qu'elle veut plus que tout, c'est notre bonheur à nous. Et ça passe par des vérités parfois difficiles à entendre, mais nécessaires pour apprendre. Par une formation, pour mieux comprendre les raisons de son célibat, spoiler alerte, la vérité n'est pas toujours là où on le croit, mais également par une redéfinition de la personne qui saura nous combler vers l'infini et l'au-delà, Inch'Allah. Cet épisode est à mes yeux passionnant. Les sujets abordés sont variés, le ton enjoué et les réflexions très poussées. En résumé, cette discussion risque bien de vous donner la pêche, mais également de vous faire méditer toute la journée et bien plus si affinité. Je vous laisse sans plus tarder avec mon invité et vous souhaite, Inch'Allah, une merveilleuse écoute. Bonjour Sabrina, comment ça va?
Bah bonjour Madina, très bien, ravie d'être là.
Très 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 contente de te recevoir, tu le sais, hein. on a mis du temps à s'attraper, mais je ne doute pas que ce sera une très belle conversation, Inch'Allah.
Inch'Allah.
Alors pour commencer, Sabrina, bah, je vais te demander de te présenter en m'indiquant ton prénom, ton âge si tu le souhaites, et puis surtout le métier que tu exerces.
Ça marche. Alors moi donc je suis Sabrina, j'ai 38 ans. Je suis maman de 2 enfants. Mon job, c'est quoi mon job? Mon job, c'est... Alors, j'ai créé l'agence matrimoniale musulmane Abelni il y a plus de 9 ans maintenant. Ouais, 9 ans. Pour aider les musulmans célibataires à se rencontrer. Au départ, c'était le but, c'était de créer des opportunités de rencontre. Et j'ai fait ça après une carrière d'informaticienne. Donc, à la base, je suis une techos, une scientifique, une geek. Pas du tout dans l'humain, mais du coup, je me suis orientée là-dessus. Puis après, avec le temps et les années, je me suis aussi spécialisée dans l'accompagnement des célibataires en termes de connaissance de soi, de travail sur l'intérieur pour pouvoir justement être la meilleure version de l'époux ou de l'épouse et surtout trouver aussi, parce qu'une fois qu'on a travaillé ça, bah on trouve plus facilement quelqu'un. Donc voilà, c'est un peu mon job aujourd'hui, c'est coach des célibataires aussi, en parallèle de l'agence.
On y reviendra sur cette évolution. Je voudrais pas sauter les étapes, mais j'ai quand même le sentiment, on va quand même faire un petit teaser, j'ai quand même le sentiment que cette évolution, elle est liée à la réalité du célibat. J'ai l'impression qu'en fait, tu as pris cette décision parce que le problème, c'est pas le manque de célibataires. Le problème, c'est beaucoup dans la tête. C'est un peu ça?
C'est pas, je me suis rendu compte au fil des années. Au départ, l'idée, c'était d'aider les célibataires à avoir de nouvelles opportunités pour se marier et voilà, on est en France, dans d'autres pays d'Europe, c'est pareil, c'est difficile de se rencontrer. Enfin, en tout cas, je pense que c'était la seule difficulté. Et finalement, c'est pas forcément physiquement que c'est difficile de se rencontrer, c'est aussi de s'accorder, d'accorder les violons entre les hommes et les femmes. Et c'est effectivement ce qui m'a amenée à travailler sur les uns et les autres et comprendre ce qui peut les bloquer pour se trouver justement.
D'accord. Si on revient sur l'agence à Bellny, donc tu l'as créée en 2013. Tu l'as quand même créé à un moment où les sites de rencontres étaient parfaitement démocratisés, à une époque où Tinder était déjà sur le marché. On peut se dire qu'on n'était pas dans la vague, quoi. Tu vois, tu surfais pas sur une vague. Ouais. T'étais hyper, tu vois, le métier de marieuse, cette époque-là, c'est un peu comme les petites annonces, quoi. Donc, à quel moment tu t'es dit, c'est une bonne idée? Et pourquoi, du coup, t'as choisi ce métier de marieuse à une époque où on faisait de moins en moins appel à ce type de prestations pour trouver l'amour?
Ouais, c'est vrai que c'était complètement désuet, hyper démodé, pas branché du tout, pas dans l'air du temps. Ce qui était dans l'air du temps, c'était les sites de rencontres, et on arrivait à une époque où ce qui fleurissait un max, c'était Inch'Allah, Maktoub et tout ça. C'était vraiment les sites de rencontres.
Complètement. Mais oui.
Parce qu'il y avait Mythique, et puis ensuite, dans les années plutôt, disons 2000, c'était Mythique et tout ça. Et puis 10 ans après, on avait Inch'Allah, Maktoub et tous les autres qui arrivaient sur le marché. Et alors Tinder, j'en avais pas connaissance à l'époque, mais certainement que c'était déjà en cours.
Elle a été créée en 2012. En fait, elle a été créée en 2012, mais le grand boom, c'était plutôt en 2015. Mais effectivement, je pense que, tu vois, c'était pas démocratisé comme maintenant. Mais en tout cas, le fait de se dire, il y avait de moins en moins de gênes à se dire, je trouve l'amour sur un site ou
sur Internet. Donc l'idée, on est caché derrière un écran et tout. Donc effectivement, alors comment m'est venue l'idée? Déjà, moi j'étais divorcée, et même si c'est pas le fait que je sois divorcée qui m'ait donné envie c'est pas la difficulté à trouver quelqu'un qui m'a amené à créer cette entreprise, c'est plutôt le fait que comme j'étais divorcée après 5 ans de mariage, je m'ennuyais à mort et je voulais occuper mon temps pour pas déprimer. Donc du coup, j'entreprenais beaucoup dans plein de domaines. Vraiment, en plus de mon travail, il fallait que je fasse des choses pour occuper mon temps. Et donc du coup, j'avais une amie avec qui on discutait, et puis du coup, bah oui, divorcée, on parle de ça, on parle du mariage, on parle aussi de la difficulté des gens aujourd'hui à se trouver. Et surtout, je me rendais compte, parce qu'une fois que t'es divorcée et que t'as tes week-ends pour toi, parce que ton enfant il est chez ton ex-mari, et ben du coup, c'est le week-end, tu vois des copines, tu sors, tu fais des trucs que tu faisais plus trop avant, et du coup, tu rencontres plein de gens qui, en fait, moi j'avais à l'époque, quand j'ai divorcé, 26 ans, et entre 25 et 30 ans, j'avais plein de copines qui s'étaient pas mariées même la première fois, en fait, et du coup, parce que moi j'avais pas eu de difficulté, je me suis mariée à 21 ans, je l'ai rencontrée à 19, vraiment j'avais pas connu la difficulté de trouver quelqu'un. Ouais. Et je me rends compte qu'en fait, il y a plein de gens très très bien qui, s'ils ont raté le coche de la fac et de l'école, là où il y a plein d'opportunités, ça devient difficile. Et donc, on avait organisé, alors que cette copine, elle me dit, tu sais quoi, on va organiser des dîners et on va mettre à table des gens qui sont de la même du même âge. Par affinité, c'était pas non plus tellement ciblé en termes d'affinité, mais en tout cas du même âge et tout ça. On a privatisé des restaurants, on a pris des traiteurs et on a fait notre petit truc. On a fait 3-4 soirées comme ça. Et on recevait les gens avant, c'est-à-dire qu'on leur demandait ce qu'ils cherchaient, ce qu'ils voulaient, est-ce qu'ils acceptaient des gens divorcés ou pas, des enfants ou pas et tout ça. Et en fonction de ça, on les plaçait à table ensemble. Mais donc, il y avait plusieurs garçons et plusieurs femmes, enfin plusieurs hommes, plusieurs femmes, et on les laissait discuter. Puis à la fin, il y avait le match. Certains nous disaient « je veux discuter quelques minutes de plus avec telle ou telle personne ». Et donc, on les laissait un peu discuter à côté dans une table à part, toujours dans un endroit où on était tous là. Il y a eu les premiers matchs, il y a eu des choses qui se sont passées, mais on se rendait bien compte que par exemple, dans une table où on est 5-6, il y a toujours une personne qui va faire la différence, dans le sens de, on va plus la regarder, que ce soit une femme ou un homme, par son caractère, en fait, qui va être beaucoup plus attirant. Mais c'est peut-être pas la personne qui te correspond tout de suite, en fait. Donc toi, par exemple, en tant qu'homme, tu peux trouver, ça va être toujours la fille la plus brillante, jolie, maquillée et tout, de la table, qui va attirer le regard en premier. Donc tous les mecs vont matcher sur elle. Sauf que après discussion, ils vont dire, ah bah non, ça va pas du tout. Mais va dire à l'autre qui était en deuxième position, finalement, c'est toi que je veux, ou c'est toi avec qui j'ai envie de discuter, d'approfondir. C'est pas très, pas très kiffant, en fait, tu vois.
Ouais, c'est pas très agréable pour la personne. Ouais.
Donc, du coup, je me suis dit, non, faut vraiment que les gens se voient une à une et qu'on donne bien le temps à chaque personne, parce que le charme, tu peux le trouver quand t'as une seule personne en face de toi, tu peux, tu peux voir des choses que t'as pas vues tout de suite. Surtout quand on te dit qu'elle match vraiment sur plein de points de caractère et tout. Et donc je me suis dit faut plutôt faire du one to one et donc voilà, finalement j'ai proposé à mon amie de monter une agence, une vraie agence matrimoniale, parce que aussi j'ai vu que chez les cathos et les juifs, bah c'était, ça avait finalement le vent en poupe, on commençait à avoir des sites fleurir et des sites très bien implantés, et il y avait des gens qui avaient recours en fait à ce type d'expérience d'agence physique. Avec un projet de mariage directement, pas juste je te rencontre et on voit plus si affinité. Tu sais, c'est un peu ça les sites de rencontre. Hein, c'est
oui, c'est un peu ça. Et puis surtout, c'est plus difficile et c'est une espèce d'autonomie qui est pas toujours la bienvenue en fait, parce que encore une fois, déjà on n'est pas toujours bien câblé dans son esprit pour savoir ce qu'on veut, parce que c'est très très intéressant ce que tu as dit sur le fait que très souvent tous les frères vont matcher sur la même sœur et toutes les sœurs vont matcher sur le même frère. Et en fait, ça dénote, à mon sens, quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'en fait, très souvent, on se connaît pas et en fait, on veut ce Graal. Mais en fait, c'est un Graal un peu idyllique, quoi. C'est intéressant parce que quelque part, ça va un peu avec la prochaine question que j'allais te poser. Est-ce que c'est facile de marier les gens? Mais t'as un peu répondu. Mais je voudrais quand même que t'ailles un peu plus loin, parce que visiblement, non, c'est pas facile. Hein, on est d'accord. Mais qu'est-ce qui est le plus difficile dans le fait de marier des gens? Parce que juste avant de te donner la parole, il y a quand même énormément d'initiatives qui ont pullulé ces dernières années. Il y a beaucoup de frères et de sœurs en islam qui ont vraiment l'intention pure et sincère d'aider les célibataires à se marier. Et en fait, il y a quasiment autant d'initiatives qui naissent qu'initiatives qui meurent. Pourquoi? Pourquoi c'est si difficile de marier les gens?
Bah, tu sais, quand j'avais commencé, je me souviens, j'avais contacté, comment elle s'appelle? Amel Rachem, qui avait Early Magazine à l'époque. Je sais pas si tu la connais. Et en fait, donc, elle avait créé le magazine Early Magazine. Et moi, je l'avais appelée par rapport à ça. Je sais plus, peut-être pour apparaître dans son magazine. Enfin, bref, c'était plutôt d'un côté entrepreneurial que je l'ai contactée. Et en fait, elle m'a dit, qu'avec son mari, elle avait fait ça pendant des années. Donc, avant Abelny, ils avaient créé vraiment un truc et les gens, et ils avaient eu 80 personnes d'inscrits et ils avaient essayé de connecter des gens. Et ils s'étaient effectivement arrêtés aussi vite qu'ils avaient commencé. Enfin, au bout d'un an, elle me dit, ça commençait à marcher. Mais c'était tellement énergivore et tellement, enfin, ça met du temps pour que ça prenne. Tu peux pas en vivre tout de suite, quoi. Donc, du coup, ça s'essouffle, déjà ça. Et en plus, en termes d'énergie, c'est pas que l'énergie de faire, c'est aussi de pouvoir absorber les questionnements, les doutes, la frustration.
La pression, parce que c'est le choix d'une vie, en fait. Tu vois, c'est un peu comme les wedding planners. Moi, j'ai fait l'événementiel, mais j'ai toujours dit, jamais de ma vie, je fais wedding planner parce que c'est censé être le plus beau jour de ta vie. Enfin, tu vois, la marge de manœuvre, de souplesse pour te rater, ou même, enfin, juste l'erreur humaine, en fait. On te la pardonne pas. J'ai l'impression que c'est un peu ça aussi quand t'es marieuse, finalement. Ah.
C'est ça. Et puis en plus, au début, quand tu m'as dit est-ce que c'est facile de marier les gens, la première chose qui m'est venue, c'est je ne marie pas les gens. Les gens se marient eux-mêmes, en fait. Moi, je propose et je propose des rencontres, je propose des matchings. Et après, c'est à eux de faire le taf. Et même quand c'est le meilleur matching du monde, déjà le meilleur matching, c'est celui d'Allah, en fait. Donc s'il a décidé, il a décidé. Moi, c'est des propositions. Vraiment, j'insiste à chaque fois qu'on vient me voir. Des fois, on me dit, ah là, mon Dieu, je viens te voir, t'es mon dernier espoir. Non, ton dernier espoir, c'est Allah, déjà d'une. Et de deux, moi, je suis qu'une cause parmi tant d'autres. Donc, faut vraiment me prendre comme ça. En tout cas, prendre l'agence comme ça.
Et prendre sa vie comme ça, en fait. C'est très précieux, ce rappel que tu fais, parce que c'est vrai que nous, on appelle ça une marieuse, mais t'as raison, en fait. C'est Allah qui marie, en fait. Et toi, tu as un biais, une cause vers le mariage. Mais, Tu as bien fait de repréciser ça.
Je me sens pas marieuse, moi. Je me sens proposeuse de profil, ou alors accompagnatrice, en fait, parce que je vais t'aider à te comprendre, à te connaître, à savoir ce que tu veux, à faire le tri dans tes critères de recherche, à te ramener aussi à la réalité de la vie et du marché du célibat, disons-le. Donc voilà, moi, c'est vrai que c'est un métier qui est pas simple du tout. Je sais pas, en fait, subhanallah, ce truc-là, j'avais fait autre chose avant, parce que je t'ai dit, je voulais vraiment entreprendre, je voulais bouger un peu. Mm-hmm. Et j'avais fait de la vente en ligne de vêtements pour femmes voilées. Et je voulais ce qui se voulait dynamique, moderne, tout ce que tu veux. Enfin, à l'époque, il y avait rien du tout. Ça n'existait pas du tout en 2013, mais genre rien. Mm-hmm. Et en fait, ça n'a pas marché parce que justement, Déjà, je suis pas styliste. Enfin, j'ai fait plein de choses. J'avais pas assez de compétences. J'avais pas assez de cordes à mon arc pour me lancer là-dedans. Je me suis pas associée à quelqu'un qui était dans le domaine, ni marchand, ni rien du tout. J'y connaissais rien en vrai. J'étais juste informaticienne et je savais juste faire un site web, tu vois. Et ça, j'ai pas tenu. En fait, pourquoi je te fais ce parallèle? Parce qu'en fait, en termes d'abnégation, ça tient pas quand t'as pas un truc qui est plus grand que toi. En fait, là, c'est-à-dire, il faut vraiment être passionné par un truc qui te dépasse, tu vois.
Tellement.
Et ça, non, tu continues pas, en fait. Tu vas t'arrêter, tu vas. Et alhamdoulilah, je me suis arrêtée très vite parce que j'ai vite compris que c'était pas pour moi et que flemme, quoi. C'est pas ma passion, quoi, le stylisme. C'était soit je gagnais de l'argent très vite parce que voilà, c'était valorisant de gagner de l'argent avec un truc que t'as créé par tes mains, soit flemme de ouf, tu vois. Alors qu'avec ce projet-là, c'est vrai que dès le début, mais vraiment dès le début, je me disais, cette année, si tu gagnes rien, c'est pas grave, tu vas inchallah gagner des hasanat. Inchallah que ça va, en fait, peser lourd sur ta balance. C'était mon seul espoir. Et du coup, je me disais, encore une autre année sans rien gagner, c'est pas grave. Inch'Allah, t'auras gagné des hasanat. Mais ma part, c'est pas ça. Tu vois, enfin, je me voyais pas gagner des hasanat en faisant des pantalons. Enfin, pour moi, ça va, il y a d'autres gens qui peuvent le faire mieux que moi. Tu vois, aider la
femme. Ouais, bien sûr.
Mais ça, je me dis, ok, à personne qui entreprend, bah, si tu dois souffrir un peu, bah, Inch'Allah, c'est Fimizan Hasanat. Inch'Allah, j'espère, après, qu'on trouve tous les moyens d'alourdir notre balance par les bonnes actions. Mais c'était vraiment le seul truc qui m'a fait lutter parce qu'honnêtement, j'ai passé 8 ans sans gagner d'argent, quoi. Vraiment, vraiment, les gens.
Sérieux? Non, mais attends, on peut s'arrêter sur le fait que tu as dit 8 ans et ton agence, elle a 9 ans. C'est ça ta réalité vraiment?
Et ma vraie réalité, c'est que même là, je l'ai pas encore sorti de ma société parce que je suis encore en train d'investir. Donc en vrai de vrai, ça fait 9 ans. Enfin, je touche toujours pas de salaire. Ça, c'est clair et net. J'ai 4 employés, j'en avais 2, j'en avais une. Donc oui, j'investis, je réinvestis, je réinvestis, tu vois. Inch'Allah, j'espère l'année prochaine commencer à me verser mon premier salaire. Inch'Allah.
C'est tout ce que je te souhaite, Inch'Allah.
Mais voilà, ce sera pas non plus un salaire de malade mental. Moi, j'étais informaticienne, je gagnais très très bien ma vie, quoi. Si j'avais continué depuis 10 ans en informatique, j'aurais doublé mon salaire. Et donc, alhamdoulilah, mais je suis pas du tout en train de me plaindre parce que j'adore ce que je fais et je sais que c'est utile. Je le fais pas pour la gloire, je le fais pas juste pour les hasanat non plus. C'est clair et net que je veux en vivre, en fait. Je compte bien gagner de l'argent avec tout ce que je fais. Tu vois, je suis un entrepreneur.
Tu sembles naturel quand même, hein. C'est-à-dire que tu veux être rémunéré pour tes efforts, en fait.
C'est ça, et même rémunéré très correctement parce que j'estime que c'est largement mérité, tu vois, ce genre de boulot. Donc vraiment je m'en cache pas, mais la réalité c'est ça. La réalité c'est que si c'était pas plus grand que moi, si ça me dépassait pas, si j'ai pas compris qu'en vrai tu sais on dit mission de vie tout ça, mais vraiment moi je me suis comme sentie d'une capacité qu'Allah m'a donnée à expliquer, à accompagner, à dédramatiser, à choquer parfois d'une bonne façon, tu vois. Et donc j'ai cette capacité là, alhamdoulillah, alors je m'en sers pour mon but vraiment c'est agrandir la communauté de notre prophète, alayhi salatu wassalam, tu vois. C'est-à-dire que pour moi, les mariages, c'est des enfants, tu vois, c'est cette communauté qui est bancale, là, et qui manque de famille, qui manque de couple. Ça me convient pas, en fait. Subhanallah, je me dis. L'islam, c'est la famille, c'est la valeur famille. Et pour qu'on soit tous, les musulmans, bien et équilibrés, il faut qu'on aide les gens à créer leur famille.
Complètement. Takbir. Non, franchement, c'est magnifique parce que c'est très, très important de rappeler que chacun, à notre échelle, on œuvre pour ça, en fait. C'est-à-dire que moi, tout comme toi, ce podcast, il existe pourquoi? Parce que le socle d'une société, c'est la famille. Et on vit dans une époque où ce socle-là, il est extrêmement mis à mal par plein d'organismes différents et par plein de moyens différents. Mais clairement, séparer les couples ou faire en sorte que les couples ne se créent jamais, eh ben, c'est un très, très, très bon moyen de détruire ce socle. Et s'il n'y a pas de socle, la société ne tient pas. Ben, on te remercie, toi, Sabrina, pour cette initiative-là, parce que on espère, Inch'Allah, que tu en seras récompensé à ta juste valeur, mais on ne doute pas que, Allah subhanahu wa ta'ala, il oublie personne. Pour en revenir justement à la question des célibataires, parce que tu as expliqué qu'en fait, c'était difficile et que, oui, clairement, c'est difficile, mais que si tu avais pas, ce qu'on appelle le feu sacré pour ça, si tu sentais pas que c'était là où tu devais aller, tu n'irais plus. Moi, la dernière fois, je regardais la vidéo d'une ancienne matchmaker. Et donc, c'est vrai qu'en anglais, t'as raison, c'est un matchmaker. C'est quelqu'un qui fait un match, c'est pas un marieur. Donc, ouais, c'est une ancienne matchmaker qui, elle a abandonné, même si elle n'aime pas trop ce terme, elle a cessé son activité de matchmaker parce que les exigences et le manque de réalisme des hommes et des femmes sur leurs standards l'a épuisée, clairement. Mmh. Et puis, encore une fois, de nombreuses sœurs françaises au sein de la communauté musulmane, elles ont créé des initiatives au sein de la Oumma et elles ont abandonné pour les mêmes raisons. Et pour être très claire, moi, et c'est ce qu'elles m'ont répété, hein, les hommes venaient les voir en disant « Tu vois Kim Kardashian ?» Bah, moi, je veux Kim Kardashian en gilbeb. Et les sœurs disaient « Moi, je veux Bradley Cooper en camis, qui a un master 2, une fois 5 étoiles, et puis une stabilité financière plus. » Ma question, j'en ai plusieurs, c'est 1. Est-ce que toi, tu fais face à ce manque de lucidité ? 2. Est-ce que ça se manifeste aussi, j'allais dire presque violemment, parce que franchement, c'est ouf d'avoir… Ce manque de réalisme-là, et pourquoi c'est un problème finalement dans la communauté?
Bah, c'est l'histoire de ma vie professionnelle sur le domaine des rencontres. Hein.
Carrément.
Le problème, bah évidemment, moi pour moi les gens s'ils se marient pas, c'est typiquement, en tout cas en une bonne partie à cause de leurs exigences. Après parfois c'est juste une couche, c'est-à-dire que c'est juste en surface. Quand tu grattes un peu, c'est des blessures, c'est des tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire quand on cherche un truc impossible, parfois ça cache le fait qu'on n'ait pas envie de se marier, que ce soit plus une injonction familiale, qu'en vrai on veut pas, donc on fait tout pour ne pas y arriver. Enfin, j'ai appris avec le temps à décortiquer, tu vois. Moi au début c'était un constat flippant, et d'ailleurs mes premiers coachings et mes premières apparitions sur les vidéos, sur c'était en mode mais vous n'êtes pas sérieux quoi, en fait tu vas jamais te marier, évidemment que tu t'es célibataire, si tu resteras célibataire si t'as ces idéaux là et donc c'était de les ramener à la réalité, d'enlever les Disney, les films turcs, les trucs de la tête et tout, de supprimer tout ça, de faire un erase pour recommencer dans la vraie vie. Sauf qu'en fait quand tu les accompagnes à ça, bah tu te rends compte que c'est pas seulement, parfois c'est juste une façade, c'est juste pour ne pas aller chercher au fond de toi en fait ce qui va pas, ce qui te bloque, ta peur des hommes, le fait que bah t'es vu un couple parental qui n'était pas un couple amoureux, que tu aies vu des gens souffrir autour de toi en amour, que tu as absorbé tout ça et que t'as pas du tout envie, en fait t'as pas du tout envie d'y aller quoi, que t'aies un pote qui se soit marié avec une starbe qui lui a fait la misère, qui lui a pris toute sa thune, bref. Peu importe ce qui est les histoires des uns et des autres, les blessures de l'enfance, tout ça. Après, ce sont des choses que j'ai découvertes en me spécialisant et en apprenant, en fait, en faisant des formations sur l'humain, en fait, tout simplement. Donc, on se rend compte que, voilà, c'est de l'extérieur, on peut dire, mais elle est pas sérieuse avec ses critères, mais en vrai, elle veut pas se marier, quoi. Voilà.
C'est vrai, à ce point. Enfin, c'est très intéressant ce que tu dis là, parce que, en fait, on peut avoir tendance à penser que, une fois que t'as, moi, j'ai que t'as débranché, parce que tu vois, on est branché, comme tu disais, sur du Disney, sur des séries, sur des films. Et donc, du coup, j'ai un truc, il faut un peu se débrancher pour se dire, la vraie vie, c'est pas ça. Mais ce que t'es en train de dire clairement, c'est que t'as beau te débrancher, t'as d'autres problèmes derrière, en fait. C'est ça l'idée?
Ouais, c'est ça, exactement. Bah, moi, dans mes formations, justement, c'est, on débranche, on comprend, on explique ce qui existe et on apprend aussi à voir avec un autre regard parce que, voilà, c'est voir la beauté d'une personne. On peut apprendre à la voir au-delà de son aspect juste intrinsèque physique de base, quoi, de premier abord. Ça, c'est possible, aller chercher l'âme. On travaille ça, on peut le faire. Et puis c'est à ce moment-là, souvent dans mes formations, au bout de quelques semaines, on me dit mais en fait Sabrina, avec tout ce que tu m'as dit là, avec tout ce qu'on a appris, avec tout ce que j'ai compris. Et aussi avec toutes les possibilités, parce que souvent elles s'arrêtent aussi, bah moi j'ai pas d'opportunité. Tu vois, on vient me voir en me disant, moi, pourquoi je ferais ta formation ? Moi, mon problème, c'est les opportunités. Et quand elles prennent justement ma formation, et à un moment donné, elles me disent, mais en fait, avec tout ce que tu nous proposes là, vraiment, si je voulais me marier, je pense que j'aurais pu.
Je voulais bien me marier, parce que la célibataire que je suis ne peut s'empêcher de penser se marier. C'est pas compliqué, mais se marier avec quelqu'un avec qui t'as envie de te marier, un mariage qui peut fonctionner. C'est le cas, en fait?
Okay. Oui, exactement. Si j'avais voulu me marier et me marier bien et être heureuse dans mon couple, c'est possible, en fait. C'est juste que finalement, bah, je me rends compte que j'avais pas envie jusqu'à présent. Et c'est OK. Qu'en fait, j'étais très bien que, si tu veux, ça n'était pas une priorité jusqu'à aujourd'hui. Mais il faut l'assumer. C'est quand ça devient la priorité absolue qu'on voit aussi que ça nous aide aussi à voir les choses différemment, d'accepter d'aller chercher, tu vois, d'aller chercher l'intérieur, d'aller comprendre, d'aller être curieux de l'autre, d'aller s'intéresser, de pas s'arrêter aux premières disputes, de pas s'arrêter aux premiers désaccords, et parce que Dieu sait qu'il y en a, subhanallah, les désaccords, on est tous différents et encore plus avec les années. On a tous construit son monde, on a construit sa façon de penser, son mode de vie, ses sorties, ses façons d'être au quotidien. Et donc, dès qu'on essaye d'accorder les violons, non, tu vois, ça s'accorde pas. Tu vois bien que ça va pas. Tu vois. Mais en fait, on veut pas lâcher ce qu'on a. Et donc voilà, il y a plein de choses. C'est complexe. Il y a pas juste, si tu veux, moi dans le dernier programme que je propose, il y a 6 étapes. Et dans les 6 étapes, il y a plein de choses. Mais pour moi, ces 6 étapes-là doivent être nécessairement passer une à une si tu veux te marier. Donc il y a la partie connaissance de soi, la partie vérifier qu'on n'a pas des blessures qui nous bloquent, la partie connaissance des hommes, parce que moi j'accompagne plutôt les femmes sur les formations, voilà, enlever les préjugés, et puis passer à l'action, tu vois. Donc toutes ces parties là tu peux pas en faire qu'une. Tu peux pas juste passer à l'action si t'as pas travaillé un minimum sur toi et que tu te connais et que tu t'assures que ton pourquoi vraiment, que vraiment tu veux te marier, pourquoi tu veux te marier en fait aussi. Tu sais, c'est comme si, je sais pas moi, tu cherches un boulot, mais tu sais pas ce que tu cherches, ou tu sais même pas pourquoi tu le fais en fait. C'est quoi? C'est un boulot alimentaire? Tu vas pas t'orienter pareil si tu cherches un boulot alimentaire, un boulot juste pour avoir une position dans la société, si c'est juste pour un truc bouche-trou. Enfin, à un moment donné, faut savoir pourquoi tu te maries, quoi. Tu vois?
Oui, parce que les enjeux sont pas les mêmes en fait. Et puis du coup, les décisions que tu prendras ne seront pas les mêmes non plus en fait.
Et les hommes qui viennent à toi ou les femmes qui viennent à toi ne sont pas les mêmes.
Mmh.
Aussi.
Ah, exact. Ouais, c'est vrai.
C'est vrai. Comme, voilà, ça dépend aussi de ce que tu vas présenter de toi, de ce que tu vas proposer, tu vas faire ton CV en fonction du job que tu cherches, tu vois.
Mmh.
Donc, voilà, il faut être au clair sur tout ça. Et donc, souvent dans les formations, il y a des personnes qui sont bouleversées à l'étape 1, d'autres qui sont bouleversées à l'étape 6. Parce qu'elles se sont rendues compte que tout le travail d'Ève perso, elles l'ont fait, c'est nickel, elles connaissent les hommes, elles sont au carré sur tous les livres de psycho, à tel point que certaines ont même fait des formations pour devenir psycho, psychologue ou psychothérapeute ou autre, tellement elles se sont passionnées pour elles-mêmes sur le sujet, sur la question, mais elles arrivent à l'étape 6 où faut passer à l'action, et là, elles savent plus faire du tout, tu vois, elles ont pas les codes, elles savent pas comment s'y prendre, en fait.
Et toi, t'accompagnes ce passage à l'action-là à travers ton programme, c'est ça?
Notamment, on passe à l'action, on dit comment, des choses qu'on nous a pas appris en fait. C'est vraiment, tu vois, comme les entretiens d'embauche. Si on te dit pas comment on doit serrer la main, comment on regarde dans les yeux quand on serre la main, comment, enfin, il y a des codes en fait, il y a des codes pour réussir son entretien d'embauche. Et quand t'es pas bien formé, on voit bien hein, les gens qui arrivent et qui ont jamais fait de simulation d'entretien à l'école, quoi. C'est pas la même chose que quelqu'un qui au carré et dans son école, on lui apprend ça, tu vois.
Les personnes que t'as accompagnées, t'as des nouvelles depuis? Tu sens, est-ce qu'elles ont pu revenir vers toi en te disant c'est bon, ça y est, c'est réglé, j'ai réussi à trouver la personne?
Alors, tu sais, le Love Programme dont je te parle là, je l'ai lancé en octobre 2021, donc c'est très récent. J'ai lancé une première promo en octobre, une deuxième en mars qui vient de se finir. Mmh. Et j'ai fait un présentiel de 3 jours en intensif, il y a une semaine. Donc, c'est très, très récent. Mais malgré ça, il y a des femmes qui vraiment, en 3 mois, se sont mariées. Vraiment, qui sont très bien, c'est-à-dire de la première session, il y a déjà eu des mariages. De la deuxième session, il y a des choses qui sont en cours et très, très en cours. Mmh. Et là, en tout cas, après, il y a toujours une ou deux personnes qui est encore dans un tawakul qui baisse, en fait. Et donc, moi, pour ça, je peux donner tous les outils. Mais il faut travailler sa foi. On la travaille beaucoup. Hein, ça fait partie des étapes de se rapprocher de sa foi, parce que c'est la base. Hein, faut être sûr qu'Allah il a les meilleurs plans, sinon tu peux pas avancer. Donc on travaille beaucoup ça. Mais la majorité, 85-90% d'entre elles me font des retours en mode, mais genre leur vie, elles voient plus du tout le célibat de la même façon. Et elles sont sûres que leur histoire arrive. En fait, elles attendent le gars comme le bus de 9h15, tu vois. Même s'il est en retard, tu vois, elles savent qu'il va venir, et c'est une toute autre façon de voir les choses. On sort de la formation avec cet état d'esprit, donc soit on a des rencontres. Déjà, elles ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'opportunités qui se créent à tout moment. C'est non-stop les opportunités. Mais en plus de ça, soit elles concrétisent, soit elles sont sur la route, mais de façon hyper sereine et avec une détermination et un tawakul à tout casser, quoi, tu vois.
Ben, je te remercie d'avoir conclu là-dessus parce que j'allais justement revenir sur ce sujet-là. Enfin, moi, ça m'importait de te poser la question de du résultat parce que on vit un peu dans une époque où on nous dit qu'il faut travailler sur soi et c'est très bien, c'est très important, mais certaines personnes sont pragmatiques et on a besoin d'avoir ce truc de à la fin de la journée, c'est quoi le résultat.
Ouais.
Mais c'est très très important de toujours garder en tête que c'est Allah qui donne en fait. Vraiment, t'as beau faire toutes les causes du monde, à la fin de la journée, le meilleur des timings, c'est le timing du Seigneur. Ceci étant dit, en attendant que ce timing arrive, travailler sur soi, travailler sur sa vision, ça reste fondamental parce que moi, je me dis toujours que si on est célibataire, c'est qu'il y a encore quelque chose à faire. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Si on était prêt, Allah il nous aurait mis quelqu'un et on aurait commencé notre vie. C'est pas que très souvent entre femmes on se dit ah non mais moi le jour où mon mari il arrive il va se prendre des pénalités de retard celui-là. Mais alors en fait peut-être que c'est toi en fait qui retarde. Non mais tu vois très souvent on se fait la blague entre nous. Mais si c'était toi qui étais en retard, si c'était toi qui retardait ton destin.
Ouais, et puis moi ce que je dis surtout aussi c'est déjà par rapport à, avant de parler de chacun son épreuve, c'est effectivement tu parles de la réussite ou pas, de l'aboutissement ou pas de certaines actions. Moi avec l'agence Abelny pendant des années à chaque fois on me dit mais c'est quoi ton taux de réussite, tes statistiques et tout ça, et j'ai jamais voulu répondre. Les gens pètent un câble, ils disent mais tu peux dire combien. En fait, si je te dis j'ai 99% de mariage chez Abelny, c'est pas du tout le cas, hein, pas du tout du tout du tout. Mais si c'était le cas, tu vas presque croire que je vais te marier, que quand tu vas t'inscrire, moi je vais te marier en fait. Mais je me substitue pas à Allah en fait. Il y a des gens, ils sont chez moi pendant 3 ans, ils trouvent personne, ils se marient à l'extérieur et ils reviennent divorcer chez moi là encore après 6 ans. C'est-à-dire que la vie elle avance, Allah il fait les choses et ils reviennent quand même sur la cause Abelny parce que c'était une bonne cause pour eux, tu vois. Donc moi ce que je sais, c'est qu'on propose un travail qualitatif, que 90% des personnes interrogées après chaque rendez-vous sont satisfaites du matching et de la qualité des profils proposés en termes de vraiment d'affinité, de ce qu'ils recherchent, de sérieux et tout ça. Mais je promets absolument pas le mariage, en fait. Donc ça, c'est clair, c'est bien de le dire et de se rappeler effectivement qu'on est une cause. Tu fais la cause, tu choisis la cause, tu choisis le meilleur cadre possible pour toi, tu choisis ce qui te met en confiance, tu choisis des sociétés ou des entreprises ou des associations qui vont te proposer des profils adéquats et de qualité en termes de matching. Et voilà, nous, c'est ça qu'on promet. On promet pas autre chose. Tu vois, on promet une qualité de service. Après, par rapport à ce que tu disais sur le célibat, tant qu'on est célibataire, c'est qu'Allah, il veut qu'on travaille, en gros. Enfin, on a des choses à faire. Tant qu'on n'est pas marié, c'est qu'on n'est pas forcément prêt. Bah, je nuancerai en disant, c'est soit ça, soit, subhanallah, c'est notre épreuve aussi. Et faut l'accepter. Tu vois.
Aussi. Oui, mais aussi, bien sûr.
En fait, voilà, en fait, ok, vous avez votre épreuve du célibat, les femmes mariées, elles ont leurs épreuves aussi, les mamans, elles ont leurs épreuves, chacun, et c'est Allah qui choisit ton épreuve, c'est pas toi.
Oui.
Donc, on s'obstine à vouloir changer de statut, mais Allah, il sait mieux pourquoi il t'a donné cette épreuve-là, et donc moi, tout ce que je dis, c'est ne faites que cette épreuve ne soit pas vaine, en fait. Faites qu'en fait, pendant cette douleur, parce que c'est difficile d'être seul, c'est très, très difficile de voir les gens heureux, mariés, etc., et de se sentir comme ça, pas complet, en fait, dans l'épanouissement sentimental, en fait, dans cette partie, parce qu'évidemment, on est complet, on est un, on n'est pas une moitié de quelque chose, mais ce côté vraiment sentimental, il n'est pas comblé. Faut prier avec cette douleur et l'utiliser pour dire il y a Allah, il y a que toi qui la ressens, il y a que toi qui sais au fond de moi, de mes entrailles, ce que je suis en train de souffrir. Et par cette douleur et par ma patience et par le fait que je me préserve pour toi et que jamais je ne flancherai par ma foi, par ma croyance, augmente ma foi, augmente ma patience et donne-moi le ajr pour cette épreuve, tu vois. Donc c'est ça aussi, souvent on est tellement pris par la course au mari ou à la femme qu'on oublie de supporter l'épreuve avec
On est entravé dans sa souffrance, on est tellement dans sa souffrance qu'on oublie, parce que pour moi nos propos sont vraiment similaires, c'est-à-dire que dire que t'es pas prêt, en fait l'épreuve c'est quoi? L'épreuve c'est un passage obligé pour te libérer, pour te rapprocher du Seigneur et pour après profiter d'un magnifique cadeau dont t'aurais pas su voir les bienfaits plus tôt. C'est une réalité, sinon tu l'aurais donné plus tôt. Donc en réalité, quand on dit on n'est pas prêt, c'est que effectivement c'est cette épreuve, elle doit perdurer, mais c'est pour toi. C'est-à-dire que Allah, il te fait pas souffrir pour lui, en fait. Allah, il n'a pas besoin de nous. Allah ne se réjouit pas de nos souffrances, bien au contraire. Mais par contre, cette attente-là, c'est une épreuve en soi, c'est une réalité, mais effectivement, des épreuves, on en a tous. Et je te rejoins quand tu dis, mais cette épreuve ne doit jamais être vaine, parce que mon point de vue, mais vraiment, quand ce point de vue-là me pardonne si je me trompe, mais mon point de vue, c'est que tant que t'as pas tiré les leçons, eh ben, tu vas rester dans l'épreuve, en fait. Jusqu'à temps que tu retires la leçon et que tu sois prêt à passer le stage d'après. Parce qu'une épreuve, ça sert à ça aussi, à passer un stage, à passer une étape, en fait.
Exactement.
Et le célibat, comme la difficulté d'avoir des enfants, comme avoir un mariage extrêmement éprouvant, tout ça, ce ne sont jamais que des passages temporaires, et il faut le voir comme tel. Si on revient sur les célibataires, tu vois, finalement, avant d'avoir cette conversation avec toi, moi, j'avais vraiment l'impression que nos standards étaient un peu l'un des gros problèmes. Et je réalise que non, pas tant que ça. Mais tout de même, j'aimerais juste qu'on revienne un peu sur les standards, pas sur ces standards excessifs-là, parce qu'en fait, tu vois, les standards que je t'ai cités plus tôt, et tu m'as clairement dit, ça, moi, j'entends ça chaque jour que Dieu fait quasiment ça, mon agence. Moi, j'avais le sentiment que c'est pas le gros. Par exemple, pour moi, c'est pas la majorité de tes sœurs qui veulent un Bradley Cooper en prémisse, tu vois. Je pense que si on a une personne qui nous plaît, avec effectivement des atomes crochus, avec qui on peut avoir une vraie discussion, etc., et vraiment un cheminement fort ensemble, je pense qu'il y a beaucoup de sœurs qui seraient ravies de ça, et on n'a pas besoin de Bradley Cooper, on n'a pas besoin d'un compte en banque en Suisse, là, pour se sentir bien. En revanche, j'ai l'impression que la faille pour la majorité des célibataires, c'est que on sait pas faire la différence entre être exigeant et, pardonnez-moi du terme, être chiant. Tu vois, c'est dans cette faille-là, j'ai le sentiment, toi, qu'on se perd. Et en même temps, c'est super dur, parce que moi, j'ai quand même l'impression que la limite, elle est extrêmement fine, et que parfois, c'est super subjectif. Moi, par exemple, je peux dire, si j'ai pas un époux qui me stimule intellectuellement, c'est pas possible. Alors que j'ai une amie qui peut me dire, mais Madina, c'est nul ça comme critère. C'est pas comme ça que tu vas rentrer au paradis, etc., etc. Est-ce que toi, avec ton expérience, tu peux me confirmer qu'effectivement cette faille-là, elle existe? Et est-ce que tu peux me dire comment on fait, parce que c'est ça en fait le sujet, comment on fait pour faire la distinction entre être exigeant et être chiant?
Alors déjà, ouais, par rapport aux critères, enfin là, ce que tu nous as présenté tout à l'heure, c'était un peu caricatural, mais c'est n'empêche que ça existe quand même, hein, pas comme ça, mais ça existe. Par contre, là où les gens ne se pensent pas exigeants, alors qu'ils le sont, c'est même pas de l'exigence, c'est genre l'impossible, en fait, ce qu'ils demandent. En fait, c'est l'accumulation. Ouais, j'ai des exemples précis. C'est l'accumulation de critères, en fait. Et eux, ils se rendent pas compte. Tu vois. Donc, mais je demande rien. Je demande juste un mec qui fasse plus d'1m80, et qui soit pratiquant et tunisien. Mais je demande rien. Tu vois un peu? Donc en fait, ouais. À part ça, il peut faire le boulot qu'il veut. Je suis pas très, tu vois, elles vont dire comme toi, moi, même s'il est pas très riche, ça me dérange pas, j'accepte tout. Même s'il a pas un boulot de fou, même s'il a que le bac plus 2, ça me va. Même si, elles ont l'impression d'être méga open, mais elles m'ont donné 3 critères combinés qui rendent la chose très 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 difficile. Parce que ce qu'elles oublient, c'est qu'en plus de son 1m80, en plus du fait qu'il soit d'origine tunisienne, en plus du fait, c'était quoi le troisième truc qu'elle m'a dit en mode vite fait, 1m80 tunisien et pratiquant.
Oui, exactement.
Pratiquant. Ok, il faut qu'il matche avec toi au niveau du caractère. Il faut que toi aussi tu correspondes. Si peut-être il veut pas d'une fille d'1m60. Ce mec-là d'1m80, peut-être il veut une fille d'1m70. Ok, tu vois, donc en fait, le faut qu'il corresponde en termes de critères, faut qu'il rentre dans ta tranche d'âge. Peut-être qu'il a des enfants, que tu veux pas d'enfants en fait, et que toi tu dis, ah bah oui, bah non, moi j'ai pas d'enfants, je veux pas d'enfants. Ah bah t'as oublié de me dire ce critère, ça vient rajouter quelque chose. Tu vois? Donc en fait, et puis peut-être que toi t'as 40 ans mais tu veux un mec qui a pas d'enfants, bah c'est beaucoup plus compliqué à trouver. Forcément, dans la réalité de la vie. Tu vois, les hommes de plus de 40 ans en général, ils ont des gamins. Donc voilà, donc en fait, petit à petit, on avait, je sais pas, moi j'avais 100 personnes possibles. Parce qu'il faut qu'il soit tunisien, donc il n'y en a pas non plus 500, d'accord?
Vous êtes beaucoup, hein, ça va, les Tunisiens, ça va.
Non, c'est vrai. Notre pays, c'est 10 millions de personnes, s'il te plaît. 10 millions.
Ah ouais? Ah ouais, incroyable. Oui,
tu vois? On est 600 000 peut-être ou 500 000, je sais pas, 700 000 je crois aux dernières news, 700 000 éparpillés dans toute la France, ma sœur. Et ça, c'est des gens mariés avec des enfants, la plupart. Donc, dans les célibataires, ils sont peut-être 200 000, 150 000. Sur les 150 000, il faut qu'ils soient dans ta ville, qu'ils fassent plus d'1m80.
Dans ta tranche d'âge, dans ta situation socio-professionnelle.
Dans ta situation, qu'il ait bac plus 2, ça va, donc elle t'a pas dit un bac non plus, donc un bac plus 2. Bref, ça complique les tâches. Donc, en fait,
ce que tu dis, pardon, je t'interromps vraiment 30 secondes, mais c'est juste pour qu'on prenne un peu du recul. Déjà, je trouve que c'est formidable que tu puisses donner des chiffres. Parce que tu sais, tout à l'heure, on disait que les gens te disent donne-moi un pourcentage dans l'agence Abelny. Mais en fait, c'est vrai qu'effectivement, il y a des chiffres qui parlent pas, il y a des chiffres qui ne veulent rien dire. Mais les chiffres, ça permet quand même toujours de revenir un peu sur terre. Tu vois, c'est comme y a beaucoup de matchmakers te disent oui non mais les filles vous êtes marrantes avec vos cheveux qui fassent 1m80. Tu sais il y a combien d'hommes dans le monde qui font 1m80? Je crois que c'est 10% de la population. Dans les 10%, on n'a pas dit qu'il était musulman, on n'a pas dit qu'il était noir si tu veux une personne noire. On n'a pas dit qu'il était tunisien si tu veux un tunisien. Donc je trouve que c'est très très important ce que tu fais là de revenir sur du factuel parce que il y a que ça qui peut permettre aux gens de réveiller et on a besoin de cet éveil là. Pardon, je ferme la parenthèse.
Non, mais c'est tout à fait juste. Souvent, moi, je donne l'exemple, elles me disent tout le temps, mais toi, tu traînes trop à la gare Saint-Lazare, alors que j'y suis jamais. Souvent, je dis, imagine à la gare Saint-Lazare. Tu vois, sur les 100 000 Tunisiens qu'il y a dans Paris, toi, t'es à la gare Saint-Lazare. Il faut qu'ils passent à un instant T, qu'ils fassent plus d'1m80, qu'ils soient pratiquants, parce qu'un Tunisien sur deux, là, il est pas pratiquant. J'exagère, mais voilà.
Même dans la pratique, c'est quoi pratiquant? Pratiquant, ça veut rien dire aussi.
Et c'est quoi ouvert? N'en parlons pas. Ça, si on va affiner. On va affiner sur pratiquant, n'en parlons pas, hein. C'est de la folie, hein. Ça veut tout dire et rien dire. Parce que justement, après ça, on est dans la phase où, là encore, je te dis juste pour qu'il se présente à toi, ce potentiel mec. Mais après, une fois qu'il est en face de toi et que tu vas creuser, que tu vas dire, ouais, mais moi, je veux quelqu'un d'ouvert d'esprit. Bah, pour lui, ouvert d'esprit, c'est qu'il laisse sa femme travailler, il n'y a pas de problème. Mais pour toi, ouvert d'esprit, c'est que tu peux sortir dîner avec tes collègues de travail le soir. Et lui, c'est ça, il n'est pas du tout ouvert d'esprit, par exemple. Donc, est-ce que c'est ouvert d'esprit?
Tu vois, c'est clair. Ouais, complètement.
Donc, en fait, bon, on parle pas de la difficulté après à matcher, parce que ça, c'est encore autre chose. Mais déjà, qu'il existe ce potentiel candidat, c'est pas si simple, quoi. Donc, si tu m'ajoutes, par exemple, au Tunisien, tu dis, quelqu'un d'arabe ou qui parle l'arabe, déjà, ça va, ça ouvre beaucoup plus, tu vois. Pareil, quand tu me dis Afrique de l'Ouest, tu me donnes 2-3 pays, parce que culturellement, il y a des choses qui matchent bien, le Mali, le Sénégal. Ok, mais tu vois que tu... Alors, n'en parlons pas des Sénégalais, des Maliens qui me disent tel caste et tout ça. Non, mais sérieux, c'est des trucs de fou, tu vois.
Ah, je sais bien.
Ouais, donc, ça existe encore. Mais elle me dit, je t'ai juste demandé ça. Ouais, mais c'est chaud. C'est super chaud. Donc, voilà, la difficulté, elle est effectivement dans les critères et dans les critères souvent chiffrés, d'âge aussi. N'en parlons pas de l'âge. Alors là, c'est un truc... Oh, l'âge, c'est le truc le plus bloquant pour nous à l'agence. Tu sais, avant...
C'est le premier critère, parce que j'allais te dire, c'est quoi le critère le plus bloquant sur lequel on doit impérativement, urgemment dire arrêter avec ce critère? Moi, je pensais que c'était la taille, tu vois.
Non, l'âge aussi. L'âge, on veut quelqu'un de vraiment de notre génération. On a le mythe, tu sais, un peu de l'adolescente ou de l'adolescent qui va vivre les mêmes choses de sa génération, quoi.
Les mêmes, en fait. Ouais. Donc ça, c'est les frères comme les sœurs, la question là. Parce que pareil, en tant que femme, t'as l'impression que c'est uniquement les frères qui sont en mode « Ah non, alors moi, si elle a 6 mois de plus que moi… »
Les femmes, dans l'idéal, elles veulent pas quelqu'un de plus vieux qu'elles de beaucoup.
D'accord.
Elles veulent un homme max 50 plus qu'elles. Alors qu'en revanche, il y a aussi la réalité de aussi le fait d'avoir des enfants et tout ça. Donc, si t'as pas d'enfants et que t'es un homme et que t'as 40 ans, bah, t'auras tendance à aller chercher plus vers les 30, quoi. 31, 32, 33, 34, tu seras content. Quand ça commence à être 36, 37, tu commences à faire la grimace quand t'es un mec. Tu vois? Et ça le bloque vraiment au niveau de l'âge. Donc, nous, on bataille un petit peu pour que ça marche. Mais voilà, mais la fille qui a 38 ans, c'est pareil. Elle va me dire 42 maximum. Ouais, mais à 45 ans, ça peut tout à fait le faire, tu vois. Voilà, c'est ces choses-là qui sont un peu vraiment touchy et on se rend pas compte à quel point ça. Avant à l'agence, on expliquait, on se cassait la tête entre guillemets. Ouais, mais vous avez 40 ans, ce serait bien si vous allez jusqu'à 46, 47. On a des possibilités, sinon ça va être chaud et tout. Et il y avait des gens qui se vexaient, qui comprenaient pas. Et on n'a pas le temps en un appel de 10 minutes qui est offert d'aller convaincre. tu vois. Donc mm-hmm. on a complètement arrêté ça. On dit oui ou on dit non. On dit non, on peut garder dans notre base, et s'il y a quelqu'un qui se présente et qui va bien avec ce qu'elle veut, on l'appellera. Mais aujourd'hui, je propose justement des formations pour débloquer tout ça. Et franchement, aujourd'hui, quand les filles elles ont fait, elles sont passées par mes formations, c'est tellement plus simple après. Quand souvent, c'est des femmes qui ont déjà essayé l'agence et qui se sont vues refuser une inscription. Mmh. Et après, elles disent « Est-ce que je peux retenter ?» Et nous, on dit « Ouais, bien sûr, on regarde les critères, ça a juste rien à voir. » Et les possibilités, elles se multiplient clairement, quoi. On n'a même pas besoin d'expliquer. Et souvent, à l'équipe, on se dit « Ah bah, ça, c'est une fille qui a pas fait le Love Programme, ou ça, c'est une fille qui a fait le Love Programme. » Enfin, on voit la différence, quoi.
Vous voyez la différence, ok. Ah, ouais. J'aimerais juste te poser une question sur la question de l'accompagnement, parce que tu l'as dit précédemment, et là, je le réentends à nouveau, tu dis souvent que tu accompagnes les femmes. Pourquoi les hommes sont pas accompagnés? Alors, c'est pas une critique, hein, mais non, c'est juste non. Du coup, pourquoi est-ce qu'ils veulent pas? Est-ce que
en fait, je les accompagne dans le cadre de l'agence. C'est-à-dire que les hommes et les femmes viennent à l'agence. Il y a pas de, bien sûr, il y a autant d'hommes que de femmes qui viennent. Ceux qui veulent.
Ah bon?
Alors, il y a un peu plus de demandes femmes que de demandes hommes, vraiment un peu plus, pas des masses plus, mais d'accord. Nous on a autant d'hommes que de femmes.
D'accord.
Ok. Donc il y a des hommes et des femmes dans mon agence. Certains prennent des services de suivi, d'accompagnement, de coaching, que ce soit homme ou femme. Il y a beaucoup d'hommes qui prennent des services de coaching et je les accompagne personnellement. J'ai aussi des formations proposées pour les hommes, mais j'en ai moins. Le dernier, là, en date, le Love Programme, ce qui est un accompagnement de 3 mois avec 6 étapes pour vraiment débloquer tous les trucs, j'ai choisi de le faire avec les femmes parce que je suis beaucoup plus à l'aise d'avoir un groupe de femmes avec des affinités, discuter, on devient très proches, on discute de beaucoup de choses intimes, etc. Je me vois pas faire ça avec des hommes. Les hommes, ça dure 2-3 heures et terminé. Je crée pas de lien avec les hommes, en fait. Donc c'est la raison pour laquelle je parle beaucoup du Love Programme, qui est beaucoup plus complet, beaucoup plus poussé. Maintenant, je suis en train de, c'était une première phase. Après, je pense que je travaillerai très bientôt avec des hommes qui prendront en charge cette partie-là pour les hommes. Tu vois, qui feront un peu un Love Programme masculin. Mais c'est pas que les hommes n'ont pas envie d'être accompagnés. Au contraire, même sur mon Instagram, j'ai tous les jours des hommes qui me disent « Mais à quand le Love Programme pour nous? Pourquoi tu t'occupes que des femmes ?» Je peux pas proposer ce même type d'accompagnement pour les hommes parce que
je suis en tant que femme.
Il y a une distance qui doit être là. Je les accompagne en one-to-one sur 2-3 séances comme une coach, mais pas plus. Alors que le groupe du Love Programme, c'est vraiment une famille. On les reçoit, on les voit, c'est différent, quoi. Donc je fais ça avec les femmes uniquement.
D'accord, c'est hyper intéressant parce que ça permet vraiment de lever le voile sur des questionnements et sur des incompréhensions, parce que moi je vois beaucoup de femmes qui se font accompagner tous les jours de trucs groupes entre sœurs et tout, et moi ma question c'est de me dire mais en fait un mariage ça se fait à deux, donc en fait c'est quand même dommage de pas voir la possibilité de voir des accompagnements à deux, en fait l'homme et la femme, parce que si on veut un mariage qui soit fabuleux, qui avance bien, il faut que les deux soient un peu entre guillemets réparés, quoi.
Tout à fait. Après, honnêtement, pour avoir accompagné les femmes et des femmes qui après trouvent leur voie et se marient et tout ça, franchement, le changement, il peut être initié par la femme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, celle qui s'est le plus transformée dans notre société, c'est la femme. Et donc, c'est elle qui a beaucoup de choses à gérer en ce moment. La pression sociale, la pression financière, la charge mentale, le fait de vouloir être traitée comme une princesse, mais en même temps de dominer comme une reine, dominer presque aussi. C'est très compliqué. Donc en fait, repositionner vraiment ta place de future épouse et de qu'est-ce que t'apportes. Quand t'apportes quelque chose à un couple, t'es pas une collègue de travail, t'es pas manager quand tu viens te positionner face à un homme. T'es une femme qui a envie de se marier. Une femme dans toute sa beauté, sa splendeur, mais t'es une femme. Donc,
c'est le service d'Allah aussi, en fait. C'est important, je trouve, de se rappeler à quel point se marier, c'est une mission. C'est une mission de vie, en fait. C'est être au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est accepter pleinement les responsabilités et les devoirs, les obligations qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné. Donc, en fait, toujours arriver en force en disant « je veux ça, 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 ça ». On est tous des abdes. On est tous au service de notre Seigneur. Et se rappeler ça aussi, c'est aussi une manière de se dire on part pas en guerre, en fait, et encore moins avec notre époux. C'est une mission de vie. On cherche un partenaire pour cette mission de vie. Mais c'est très intéressant ce que tu dis là parce que j'ai écouté une discussion là-dessus sur le mariage il y a pas longtemps et en fait la personne disait les hommes ils ont pas beaucoup changé hein dans elle dit souvent les hommes sont simples et les hommes parfois ils le prennent mal genre oui on n'est pas simple et tout elle dit mais en fait simple c'est pas idiot simple c'est genre vos besoins sont assez simples et en fait depuis la nuit des temps vous avez pas beaucoup évolué vous voulez une femme qui s'occupe bien de vous qui vous accorde la paix dans le foyer qui est apprêtée ça c'est depuis la nuit des temps toi en tant que femme t'as changé. Avant, tu bossais pas, maintenant tu bosses. Tu veux une carrière et tu veux aussi être très, très présente pour tes enfants parce que ça compte pour toi. Tu veux être une personne qui gère son cheminement spirituel et qui veut pas être derrière son mari. Tout ça, ça a énormément évolué et ça continue d'évoluer. C'est-à-dire que nous, les femmes que nous sommes dans notre trentaine, bientôt quarantaine, on n'est pas pareil que des, on n'a pas les mêmes aspirations qu'une femme de 20 ans qui arrive là, en fait, dans un univers où elle veut se marier. Donc, c'est très intéressant ce que tu dis parce que de ce que je comprends, c'est qu'en fait, finalement, l'enjeu aussi, c'est avant même de dire oui, c'est important qu'on travaille en tant que couple, toi, en tant que femme, t'as beaucoup de choses déjà à gérer, à travailler.
À repositionner. Okay. Parce que la société, elle nous a tellement façonné, nous, la femme, elle nous met tellement d'injonctions, de réussite, de devoir, de cartonner, d'être une belle gosse, d'être, tu sais, mom preneur, tout ce que tu veux. C'est-à-dire, on cumule les casquettes. Je veux dire, on n'appelle pas ça un pape preneur, tu vois ce que je veux dire. Pourtant, il a des enfants à s'occuper aussi et il devrait être aussi entre le télétravail et les gamins, tu vois ce que je veux dire. Mais nous, c'est comme si c'était notre tâche de faire les deux, c'est trop. C'est trop et du coup avec ça on arrive on croit être forte et on n'arrive même plus à montrer justement sa faiblesse et c'est dans la faiblesse que le sentiment il passe avec l'homme, c'est-à-dire c'est même lui même dans sa faiblesse d'homme hein, mais c'est dans le quand tu lâches les armes, tu vois, t'es pas en train dans la vie on est comme des oufs, on a besoin de s'armer, la femme on lui a donné v'là les armes, tu vois, pour réussir, soit plus bonhomme, soit plus caractériel, pour te faire respecter au travail faut que tu tapes du poing, sinon t'as pas ce qu'il te faut, faut toujours se battre, mais sauf que justement il y a un endroit où il faut pas se battre, c'est quand t'es en face d'un prétendant. Et donc c'est vraiment à la femme de réapprendre ça, et je me rends compte que juste ça déjà, bah ça, même l'homme qui réagit un peu qui a toutes qui a tous ses préjugés sur la femme d'aujourd'hui, quand il enfin il voit une femme qui est rééquilibrée, qui s'est réappropriée ses atouts de femme,
différents rôles en fait. Qui est en paix avec ses différents rôles,
exactement. Et ben quand il a une femme comme ça en face de lui, déjà lui-même il redescend. Pff, et tu vois ce que je veux dire. Et du coup, bah là le lien se crée. Et donc c'est pas pour rien que je parle avec que je coach plus les femmes. Ok, les hommes aussi ils ont besoin d'être coachés sur. C'est surtout sur les blessures de l'enfance, sur les difficultés à être en tant qu'être humain confiant dans la vie, tu vois. Mais bien je sûr. T'assure que pour avoir vu le résultat sur les femmes. Est-ce que ça procure, tu vois, dernièrement, et une des dernières à qui j'ai demandé un témoignage, qui m'a dit, tu m'as fait passer de féministe à féminine. Et en fait, j'avais oublié que j'étais féminine. Et pourtant, ça veut pas dire qu'elle est pas féministe. Bon, féministe, il y a plein de définitions, plein de trucs chelous et tout. On est d'accord. On s'attarde pas là-dessus. Mais dans son langage, ça veut dire, je suis pas en train de mener un combat quand je suis en face d'un homme. Donc, quand elle est en face d'un homme, elle est pas féministe. Elle est féministe peut-être dans la société. Tu vois ce que je veux dire? Mais en face de mon mari, je suis féminine. Je suis une femme.
Et puis, en fait, je crois que ce qu'il faut aussi qu'on comprenne tous, parce que j'ai l'air que les gens comprennent, mais que tout le monde comprenne, moi, la première, c'est que être féminine, encore une fois, c'est plusieurs identités. Et en fait, on vit dans une société très, très binaire. T'es féministe ou tu ne l'es pas? T'es comme ça ou t'es comme ça? Alors qu'en fait, Allah, il nous a quand même appris, parce qu'en fait, on en reviendra toujours à lui, il nous apprend le juste milieu. C'est ça le juste milieu, c'est être vraiment au milieu de plusieurs rayonnements en fait, tu vois, on est au centre de différents rayonnements. Mais si t'es à l'extrême d'un seul rayonnement, t'es archi loin en fait, t'es super loin de ton centre en fait. Faut être capable de revenir sur ce centre-là, dire moi je suis au centre et il y a une dizaine de rayonnements. Mais je te rends compte si t'es à l'extrémité d'un seul rayonnement, tu laisses tomber les 10 derrière, c'est compliqué en fait. Et t'as dit quelque chose, t'as mis le doigt sur un truc qui est hyper important, je pense. C'est à chaque fois de se rappeler que, et j'ai vraiment l'impression, après avoir eu cette conversation avec Ali Habibi, ce sujet de se dire, venez, on travaille sur nous. Quand tu travailles sur toi, le résultat, il vient. Mais en fait, de toujours se dire, eh ben, c'est bizarre parce que lui, il travaille pas quand même. Donc, moi, j'aimerais bien savoir. Travaille sur toi et.
Ouais, bah, dans les premiers moments du Love Programme, c'est ouais, non, mais ok, mais nous, on fait tout ça, là. Ça a l'air bien, ce qu'on va faire. Mais les hommes, tu vois. Et en fait, même les hommes, moi, j'ai fait beaucoup de live avec l'imam Younes. J'aime beaucoup de Nadine Legrand. Machin, là. Et à chaque fois, lui dit, mais je vous assure, dans le couple, la clé, c'est que chacun regarde son défaut, quoi. Vraiment. Ouais. Travaille juste sur toi. Tu verras que tout va changer. Homme ou femme, hein. Juste à chaque fois que t'es saoulé par ta femme, tu te dis, ok, mais moi, qu'est-ce que je peux faire, là? Qu'est-ce que j'ai pu faire qui a pu produire un tel comportement. Et si chacun faisait ça, mais on vivrait, waouh, super bien, tu vois.
Ouais, donc, on pourrait super bon voilà,
effectivement, t'as raison de le souligner, machallah.
Bah, alhamdoulilah. Parmi les autres questions que j'avais, il y en a une qui m'importe beaucoup parce que je te le dis souvent en off, toi, t'es un peu cette tata, tu vois, qui va un peu nous donner des réalités, mais on en a besoin en fait. Et enfin, on en revient toujours à la même chose. On vit dans une société où on a un petit peu de mal avec la critique. On est un peu en mode oui, mais c'est pas moi, c'est l'autre. Et puis c'est vrai que parfois l'autre peut nous faire souffrir, mais donc l'autre nous fait tellement souffrir que nous on oublie que on a des axes d'amélioration. C'est exactement ce qu'on vient de se dire. Ma question c'est est-ce que tu peux nous donner un peu de ces vérités qui parfois font mal, mais qui peuvent vraiment aider à débloquer des situations. Par exemple, j'entendais une matchmaker qui disait la dernière fois, les filles, vous voulez plaire à un homme? Eh ben, apprêtez-vous. Et dans des commentaires, t'es en mode, elle est sérieuse celle-là? Mais ça veut dire quoi? Non, mais il y en a marre aussi de ces hommes qui sont hyper superficiels. Mais en fait, elle a juste dit une vérité, à savoir que, comme on dit souvent, c'est un peu caricatural, mais c'est un peu vrai. Les hommes tombent amoureux de ce qu'ils voient et les femmes de ce qu'elles entendent. Ça veut pas dire que c'est bien. Ça veut pas dire que on fonde son mariage uniquement sur du blabla ou uniquement sur de l'apparence. Mais il serait complètement fou de se dire ah ben moi mon mari n'a pas besoin que je lui plaise physiquement. Bien sûr que les femmes elles ont aussi besoin que l'homme leur plaise, mais on n'a pas le même rapport au visuel et à ce qu'on voit. Et ça c'est une réalité qui peut être tranchante, qui peut faire mal quand on est une femme, mais si on n'a pas conscientisé ça, on va au-devant de grandes difficultés. Donc, ma question, c'est est-ce que tu as d'autres vérités comme celle-ci que tu as pu voir émerger au fil de tes presque 10 ans d'expérience dans le fait d'accompagner, dans le mariage et dans le fait d'accompagner des hommes et des femmes?
Ouais, alors déjà, ouais, la partie visuelle, c'est très très important. Souvent, moi, ce que je dis aux femmes, c'est le truc, j'y vais en mode nature et découverte, parce qu'il y a une certaine tendance de femmes qui me disent, ouais, mais tu vois, s'il me voit en mode naturel, après, quand je serai une bombasse à la maison, il va grave kiffer, et ça peut être que du plus. Ouais,
non, mais il n'a pas le temps de se projeter.
Jusque là, tu vois. C'est bon. Donc, ouais, évidemment. Et je dis vraiment pareil aux hommes, parce que les hommes aussi, ils se rendent pas compte à quel point c'est différent, c'est pas le même type de.
C'est moins intense, je dirais.
Ouais, mais quand même, nous les femmes, on est très 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 sensibles à la tenue, par exemple.
Oui.
Au charisme, à ce qui va dégager. Donc un mec qui va être bien habillé, je leur dis les gars, mais vous rendez pas compte quoi. Si tu mets des chaussures qui sont vieilles, ça fait pas le même effet. Si t'as mis tes plus belles chaussures, on se sent respecté quoi. Une montre, des belles chaussures, tu vois, tout de suite on se dit ah ouais quand même, j'aimerais bien. Ça c'est bien, ça c'est cool.
Donc, c'est vrai ça, en plus. C'est bien vrai. Ça.
Vachement bien. Donc ça, tu vois, on leur dit pas assez, les gars aussi, parce que souvent, en tout cas dans la culture maghrébine, je connais pas trop comment ça se passe pour les autres, mais je pense que c'est un peu pareil aussi chez les Africains d'Afrique noire et peut-être même ailleurs, je sais pas trop en Europe comment c'est l'éducation des garçons, mais il y a ce côté t'es un bonhomme, ça suffit quoi, t'y vas, t'es juste un mec. Wesh, non, pas du tout. Donc, tu vois, non, t'es un mec, mais franchement, si tu mets le paquet sur ton style et que tu respectes la femme quand t'y vas, bah ouais. Et donc, le gars, je leur dis la même chose, je leur dis, quand je leur explique ça, je leur dis, mais tu vois, toi, quand tu vas mettre le paquet, tu vas mettre un beau jean, une chemise, des belles chaussures de ville ou bien même des baskets, mais des baskets blanches, je passe pas les grosses Air Max à bulles, mais voilà, ça, c'est pour le week-end. Tu vois, c'est comme si, toi, tu disais, ouais, elle a une grosse moustache, mais c'est pas grave, je vais voir son être intérieur. Que dalle, en fait. C'est très important, parce que ce qu'elle va voir au premier rendez-vous. Après, c'est moins dans les détails comme eux, c'est différent. Mais évidemment, apprêtez-vous un max, parce que c'est un rendez-vous important. Ça donne aussi l'importance que tu te donnes, l'importance que tu donnes à l'autre, Et Erika qui Erika qui a écrit un livre sur les mots Kabbalah, tu sais, Erika Poué, elle dit un truc que j'aime bien, c'est donne-lui envie de d'ouvrir le bonbon, quoi. C'est tu vois, ok, c'est du marketing, c'est la couche supérieure, mais que ça soit agréable, joli, voilà.
Et puis, donc, en plus, on aime tous cette couche supérieure, en fait. Rares sont les personnes qui se disent, non, moi, ce petit emballage, ça me fait rien, ou j'en ai pas besoin.
Même quand je vais déjeuner avec une copine, je suis contente de l'avoir pas avec son cerné, enfin, je suis contente de l'avoir en bonne forme, ça me donne envie, ça me met la pêche, ça me donne envie de discuter avec elle, enfin, franchement, c'est comme ça, l'être humain, ouais, il aime bien la beauté, quoi.
Il aime le beau, en fait, ouais, tout à fait.
Exactement, ouais. Donc voilà, ça, c'est un conseil, effectivement, que tu rappelles et qui est très, très bon. Après, est-ce que j'ai un autre truc qui me vient, là?
Que ce soit sur la tranche d'âge, que ce soit, parce qu'il y a quand même vraiment des points, tu vois, quand t'es une femme et que t'es en fin de trentaine, que t'es dans ta quarantaine, même au-delà, ouais, que tu avais l'air de dire,
ouais, les
vérités, peut pas être le même que quand t'as 20 ans. Et ça, franchement, c'est très dur en tant que femme.
C'est très dur, je sais. Il y a plein de femmes même qui me disent, essaye de mettre un peu plus de pincettes et tout. J'ai fait une vidéo qui s'appelle sur YouTube et qui a été, enfin, difficile pour certaines personnes à accepter. C'est je fais pas mon âge. Tu sais, les femmes qui disent je fais pas mon âge, en fait. Ouais, mais tu l'as, ton âge, tu l'as. Donc, t'as intérêt à bien mettre ça dans ton crâne, à l'assumer et à l'assumer bien parce que c'est aussi du plus. Tu vois,
complètement.
Dire j'ai 38 ans mais je fais pas mon âge, ou je me fais draguer par des mecs plus jeunes. Moi souvent ce que je leur dis, tu te fais draguer par des mecs plus jeunes, est-ce qu'ils se sont mariés avec toi?
Oui.
Est-ce que le mec de 28 ans qui croyait que t'en avais 32, est-ce que il est venu te mettre la bague au doigt quand il a su que t'avais 38 ans? La réponse, elle est non. Donc ça va, ça c'est bon, on peut oublier, je fais pas mon âge. Tu as ton âge. Et c'est très bien. Tu as l'âge de la sagesse, tu as l'âge de la maturité, tu as l'âge de pas lui claquer entre les mains après 10 ans de mariage parce que tu sais déjà ce que tu veux, que t'es un produit fini, que t'es construite, que t'es déter à faire des enfants, que t'es déter à avancer dans la vie, à construire un projet familial, à bouger, à concrétiser des projets religieux. T'as tes 38 ans et tu les as bien. Donc, présente-toi en assumant ça. Ça va te rendre mille fois plus belle que de faire la gamine, quoi, et de vouloir revivre ton adolescence. Faut arrêter. Donc ça, ouais, ça fait partie des vérités qui font mal. Mais voilà, et puis après, faut aussi accepter, ça c'est le côté plus de tes 38 ans, le côté moins, c'est que oui, un mec de 38 ans, il va préférer une femme de 32. Parce qu'il se dit qu'il pourra avoir 3-4 enfants avec elle. C'est clair et net. On peut passer notre life à philosopher là-dessus. On peut faire encore 3-4 podcasts sur « Ouais, mais l'horloge biologique, c'est pas juste. » Allah, il est juste. Allah, il est juste. S'il a mis cet âge-là pour la procréation, c'est peut-être pour nous dire « Oh, mes filles, là, faut y aller là maintenant. Il faut s'engager. Faut arrêter de rêver, les princesses.
»
D'accord ? Donc, je sais pas pourquoi Allah, pour quelle raison Allah, il a donné cette différence entre les hommes et les femmes. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est là, que je dois l'accepter. Ce décret divin, et que je dois travailler avec ça, et que je dois m'organiser en fonction de ça.
Ok.
Donc, être réaliste, donc chercher des mecs qui sont peut-être un peu plus âgés que moi, qui ont peut-être déjà des enfants, parce que comme ça, ils vont mettre moins l'impression pour en avoir. Voilà, c'est la vérité.
Et accepter que c'est bien, parce que ça permet aussi, je pense, de prendre du recul sur le fait que, encore une fois, il y a nos critères et il y a ce que Allah, il a prévu pour nous. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, toi, tu t'es dit, ah non, mais moi, quelqu'un de telle culture, c'est non. Quelqu'un qui a des enfants, c'est non. Alors qu'en fait, ton rêve, il est dans les enfants de l'autre. Ton rêve, il est dans le fait que la personne, justement, parce qu'elle a une autre culture, elle peut t'emmener ailleurs dans certaines réflexions. Mais c'est vrai que... Tu vois, je te demandais tout à l'heure comment on fait pour faire la distinction entre être exigeant et être très relou, pour le dire différemment. Et en fait, j'ai l'impression que c'est se rappeler tout ça aussi, quoi, de se rappeler que Allah subhanahu wa ta'ala, il va pas nous présenter quelqu'un exactement comme on veut, parce qu'en fait, souvent, on veut pas forcément les bonnes choses pour nous. Nous, on veut kiffer, quoi. Mais en fait, kiffer, ça nous ramène pas forcément au fil jannah. Et en fait, le goal, c'est ça. Faut toujours se rappeler le goal, en fait. C'est vraiment, j'en ai parlé avec d'autres couples et à chaque fois, on s'est dit, le goal, c'est ça. Et si on reste focus sur le goal, ça peut aider à, justement, à accepter certaines de ces réalités-là, quoi. Et justement, à les embrasser et avoir que du khair derrière. C'est pas juste aller à la battre en disant, ouais, bah, accepte. Ouais,
non, j'ai pas accepté.
Moi, j'étais un peu comme ça. Ouais. Une forme de fatalisme. Mais en fait, la réalité, c'est qu'en plus, quand tu embrasses tout à fait le fait que c'est Allah qui sait, Allah, il veut ton bien, oh là là, mais jamais tu mets dans des galères. Et ça, moi, franchement, je l'ai vraiment senti, subi, des moments où je me disais, oh là, lui, c'est vraiment pas celui que j'aurais choisi pour moi. Mais Allah, si tu estimes que c'est cette personne-là, eh ben, bismillah. Eh ben, cette personne, ça se concrétise pas. Et des fois, c'est comme si Allah, il a besoin que, c'est pas, il a besoin de rien. Mais en tout cas, toi, il veut te montrer que quand tu lâches prise, il se passe des choses magnifiques.
Exactement. Et moi, je vais nuancer mes propos avec ce que souvent on me dit, mais ça se fait pas. Et me dis pas que c'est pas possible de marier avec un mec plus jeune, etc.
C'est pas ce que t'as dit, hein.
Ouais, c'est pas ce que j'ai dit. Et c'est grave possible. Je nuance en disant, sur ton tapis de prière, ok, sur la sajed Allah, tu pleures et tu demandes ce que tu veux à Allah, ok. Mais dans les causes que tu fais, tu dois lui dire, Allah, toi, tu sais mieux que moi. Moi, je veux ça. Mais si t'as mieux, dans une autre origine, un autre âge, un autre truc, j'accepte de rencontrer parce que c'est toi qui sais mieux que moi, en fait. Donc, tu vois, et peut-être qu'il va te donner, j'ai connu des gens à qui il a donné exactement le mec de ses rêves sur un critère que moi, je n'aurais jamais accepté d'inscrire, par exemple, sur ce critère-là, tu vois. Je t'aurais dit, mais même pas en rêve, qu'est-ce que tu racontes? Je peux pas faire ça. Moi, perso, je peux pas. Allah, il peut, moi, je peux pas, tu vois.
Ouais.
Donc, voilà. Donc, moi, quand les gens ils viennent me mettre leurs critères à deux balles à l'agence, je leur dis, ça, tu le demandes à Allah dans tes prières. À moi, tu me demandes un truc réaliste, s'il te plaît. Parce que moi, je suis une agence. Je leur demande et on sait pas par quoi Allah, il peut donner.
Donc, bien sûr.
Un mec plus jeune, bah, ok, je prends. Tu veux, t'as 38 ans, tu veux un mec entre 35. Ok. Mais entre 35 et 45.
Ouais.
Ok, 35, possible. Vas-y, Allah, il peut tout. Mais si tu me dis entre 35 et 40, bah, je te dis, je t'inscris pas. Moi, personnellement. Après, va demander Allah, il va te le ramener. Par un autre biais, tu vois. Donc, voilà, effectivement, tu dis bien, quoi. Voilà, c'est se rappeler que c'est un lâcher-prise. C'est lui qui sait exactement le bon gars pour moi ou la bonne nana pour moi. Et après, ouais, on a nos critères, nos trucs, mais ça ne sont que des aspirations et c'est sur ton tapis de prière, quoi. Dans la vraie vie, tu fais les causes en étant tout à fait réaliste.
C'est une très bonne chose de se le rappeler. Une des dernières questions que je voulais te poser, c'était par rapport justement à ton métier d'accompagnatrice. On en a déjà beaucoup parlé, mais on a parlé aussi du Love Programme en substance. Donc, tu es passée de matchmaker, je préfère le dire comme ça, parce qu'encore une fois, c'est plus fidèle à ce qu'on se disait, de matchmaker à accompagnatrice. Est-ce que tu as eu un événement, un déclic qui t'a fait dire, c'est mort, déjà, est-ce que tu as complètement lâcher le matchmaking et tu laisses les équipes gérer ou tu l'as encore un petit peu? Comment ça fonctionne un petit peu l'agence à Belny là-dessus et ton activité d'accompagnatrice, si tu peux nous en donner quelques mots?
Ouais, alors par rapport à l'agence à Belny, ma tambouille, ma façon de faire, elle a pas bougé, donc l'agence elle est totalement fidèle à ma façon de faire. C'est-à-dire que j'ai transmis ça à mes équipes, c'est une philosophie, quoi. Tout ce que je te raconte là, tous les conseils que je te donne, tous les trucs où je dis aux filles, non mais là, faut l'appeler, faut lui dire ça va pas, machin, truc. C'est ma façon de faire, elle est toujours en mise en œuvre à l'agence. Et il y a une vraie philosophie de l'agence à Béni. Donc quand tu viens, c'est pour une transformation. Tu viens pas juste pour donner tes critères et voilà. On va plus loin. Et en plus, on a des services aussi d'accompagnement qui comprennent certains de mes accompagnements à moi. C'est soit les accompagnements de l'équipe, soit plus, on va dire, je peux aussi participer. Et des fois, je participe à choisir aussi les profils. Donc, je continue à faire du matchmaking pour certains adhérents Gold qui veulent l'option, on va dire, mon regard à moi. Mais l'équipe travaille en autonomie sur ça et elles sont formées avec cette philosophie-là.
Mais en tout cas, pardon, quand on vient pour rencontrer quelqu'un dans ton agence, on vient, c'est très intéressant, c'est la première fois pour le coup que j'entends ça. En fait, quand on vient dans ton agence, c'est pas juste trouvez-moi quelqu'un. Toi, tu leur dis, quand tu viens chez moi, ou en tout cas quand tu viens dans l'agence à Belny, tu viens en acceptant, en épousant une philosophie et des critères. Sinon, c'est non, c'est ça?
Alors, les gens nous donnent des critères. S'ils sont tout à fait OK pour nous, réalistes, on va les inscrire avec cette
base. Oui. Mais il faut que ce soit aligné.
Et avec ce réalisme-là, vous défendez. Quand même là, c'est-à-dire que nous, on va quand même expliquer dès le début que on n'est pas un site où tu vas juste mettre des chiffres et des cases et après, on va te présenter exactement ce que tu veux. On va se permettre, parce qu'on a l'expérience, parce qu'on sait voir le petit truc, d'aller un peu au-delà de ce que tu veux. Parfois, mais attention, on a un contrat avec des critères fermés. Mais si jamais j'ai quelqu'un, par exemple, qui va me dire, moi, je veux pas d'une fille, qui travaille, qui a des horaires de dingue et tout, machin, où je veux pas d'une fille non voilée, bah, par exemple, si j'ai une fille que je trouve mortelle pour lui, vraiment, genre en termes de religiosité, en termes de tout ce que tu veux, et qu'elle aussi, lui aussi, il match pour elle, qu'elle porte pas le voile, mais qu'elle a la ferme intention de le porter, je vais pas juste, tu vois, si c'était un critère fermé, elle porte pas le voile, salut, tu vois, c'est binaire. Eh ben, je vais quand même lui dire, écoute, elle est mortelle, elle a la ferme intention de le porter, aujourd'hui, elle peut pas pour X ou Y raison, mais je te propose quand même de la voir, ça vaut le détour, pour que tu puisses, toi, la questionner sur ce projet-là, tu vois, notamment. Et d'ailleurs, un des couples là en cours, je pense à cette idée-là, enfin ça, parce qu'il y a un des couples qui s'est rencontré sur cette base-là, et j'ai coaché le mec dernièrement qui me demandait comment aborder cette question du voile sans heurter la fille et tout ça. Donc ça, c'est ce qu'on fait, c'est ça, matchmaker, c'est aussi dire là, ça sort un peu de ce qu'on s'était dit, mais je te le propose quand même, et est-ce que ça te dit, tu vois? Où il a pas bac plus 5, mais c'est un mec qui est autodidacte, il a fait telle ou telle chose, il a entrepris, je pense qu'en termes de d'intelligence et tout, vous avez quand même pas mal de choses, vous pouvez vous challenger, je propose quand même. Après, elles peuvent me dire non, et c'est pas comptabilisé dans leur contrat, parce que contractuellement, on les a inscrits sur la base de certains critères, tu vois. Donc, c'est du plus, mais c'est du plus, c'est notre taf, quoi, c'est notre métier d'expertise. C'est pour ça que je te dis, il y a quand même une transformation, on évolue au cours de l'agence, et souvent, dans les débriefs après les rendez-vous, bah on est là aussi, on conseille, et puis elles vont dire, les filles, bah tu vois, t'as dit non pour celle-là, je pense que si je te propose une fille plutôt comme ça, est-ce que c'est pas ça qui conviendrait mieux, tu vois? Donc il y a une transformation, c'est pas juste ok, t'as fait ton rendez-vous, tu dis oui, tu dis non, pas du tout. On analyse après chaque rendez-vous et on voit comment on peut l'aider au mieux à évoluer sur sa vision, proposer des personnes qui matchent mieux. Donc c'est vraiment ça le travail de matchmaker, tu vois. Donc je le fais plus beaucoup. On va dire que je le fais vraiment avec parcimonie. Mais dans l'agence Abeni, il y a des services d'accompagnement pour ceux qui veulent. Donc, du coaching Sabrina B, entre guillemets, hein, parce qu'il y a Abeni, il y a Sabrina B. Et à côté de ça, moi, l'accompagnement, il se fait beaucoup sur les réseaux, c'est-à-dire que je donne beaucoup de conseils sur les réseaux sociaux. Donc, je suis très, très présente et sur YouTube, Instagram. Et à côté de ça, je propose aussi des formations et des coachings privés en individuel.
C'est hyper complet. Je trouve ça vraiment très, très intéressant parce que tu vois, je t'ai pas posé la question en frontale de c'est quoi la plus-value de passer par une agence matrimoniale et notamment par vous. Mais tu vois, le Hamdoulilah, t'as répondu à cette question-là que je trouvais importante parce que c'est un véritable apport pour les personnes qui connaissaient pas ton agence et qui connaissent pas parce qu'en fait on croit tous connaître ce que c'est qu'une agence matrimoniale, mais en fait la réalité c'est que très 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 peu de personnes sont déjà passées par ce biais-là. Donc je te remercie vraiment beaucoup Barakallahu Fiki d'avoir reprécisé ça. J'ai une dernière question parce qu'on reste quand même des amoureux de l'amour ici. Est-ce que tu peux nous raconter éventuellement l'histoire qui t'a le plus ému, où tu t'es vraiment dit ah vraiment je suis heureuse de faire ce métier, ou je l'ai pas vu venir et vraiment ces gens-là se sont vraiment bien matchés. Est-ce qu'il y a quelque chose, un petit truc où vraiment que tu peux nous partager qui peut aussi donner peut-être, je sais pas, de l'espoir aux célibataires qui parfois peuvent avoir le sentiment que c'est trop dur et qu'ils n'y arriveront pas?
Il y a plein d'histoires parce que tu sais, des fois il y a des joies internes qu'on presque pas qu'on veut pas ou qu'on peut pas partager, parce que c'est pas évident de, c'est-à-dire on peut pas, nous en tant qu'un, on peut pas dire à l'extérieur, tu vois, ça on n'y croyait pas vraiment, tu vois, genre on en fait des fois on a un doute, parce que aussi pour compléter ce qu'on a dit tout à l'heure sur le matchmaking, donc j'ai une équipe, j'ai une entreprise qui fait ça, donc à Abeni, par contre j'y suis toutes les semaines et on fait des débriefs avec l'équipe toutes les semaines, parce que c'est vrai que des gens des fois posent la question, Sabrina, mais toi t'es plus dans l'agence, donc je suis plus gérée par toi et tout. Non, chaque personne qui rentre, chaque nouveau profil, chaque nouveau inscrit et tout, on débriefe avec l'équipe, on en parle et on est plusieurs à donner un point de vue. D'ailleurs c'est la richesse aussi de l'agence, parce que justement, j'en viens à cette demande que tu me fais d'une histoire un peu spéciale. Quand on n'est pas d'accord sur un profil, genre sur un matching plutôt, bah on débat en fait entre nous. Et si on est, il y en a certains, ils vont dire non, j'y crois bec et ongle, ça va le faire. Mais oui, mais lui, il nous avait dit tel truc, et elle nous avait dit, ouais, mais franchement, il y a ce côté-là, tu vois, leur histoire personnelle, comment ils ont grandi, des parents qui, tu vois, les deux, ils ont grandi sans leurs parents, par exemple, ou quelque chose comme ça. Il y a un truc qui nous fait dire, ah, il y a quand même un atome crochu, ça, ils vont se comprendre. Mmh. Ils ont des blessures, par exemple, qui vont se comprendre et tout. Donc c'est, il y a des choses, des fois c'est plus compliqué que ça, et on n'ose pas, j'oserais pas te dire là, c'est de l'interne, te dire voilà, pour tel critère j'aurais jamais payé, tu vois, j'aurais jamais parié un sou sur ça, tu vois. couple. Et par contre, quand du coup, une des filles qui a insisté, bah, voit son projet, finalement, le projet se concrétiser, et ou un gros coup de cœur, ou un gros, franchement, on est comme des oufs, quoi. On est vraiment comme des oufs, et on se dit, alhamdoulilah, quoi. C'est, parce que nous, on est que des êtres humains, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que parfois, on préjuge quand même. On fait pas exprès, mais c'est comme ça, on est obligé d'avoir un trail. Voilà. Et, tu vois, où, certains types de physique ou certaines choses, bah, on dit peut-être qu'il va pas lui plaire ou il va pas lui plaire. Et en fait, si, quoi. Et ça, c'est la magie d'Allah, en fait. Donc, c'est.
J'attends des exemples précis, mais c'est justement, c'est de voir cette magie divine opérer à certains moments, quoi.
Ouais, ouais. Et puis quand c'est plus précis aussi, quand, genre, pour telle chose précise, genre, on est vraiment, presque sûr de notre coup, mais après, par là, on peut que faire des doigts pour que ça marche, hein, évidemment. Pareil, on est très, très heureuse de voir que ça fait mouche, quoi. Genre, le gars, il va sortir du rendez-vous, il va dire, mais comment vous avez fait? Comment c'est possible de trouver ça? Ce que je cherchais vraiment précisément, tu vois, chez une femme, c'est mortel, quoi. Ça, c'est kiffant.
Ouais. Bon. Bah, je te remercie d'avoir accepté de partager tout ton savoir avec nous. Je te prie de croire que même les vérités qui font mal ont été dites avec beaucoup de bon, en tout cas, j'ai senti de la bienveillance et surtout ce truc de je dis ça parce que c'est pour notre bien à nous en fait et ben parfois c'est comme pour les épreuves. Ça fait mal mais ça fait du bien derrière. Donc bon, il faut aussi l'accepter. Je te remercie vraiment beaucoup. Est-ce qu'il y a des choses que tu souhaites rajouter, des messages que tu souhaites faire passer avant que ceci?
Merci beaucoup pour cette initiative aussi de Halal Love, ça s'appelle, c'est ça?
Ouais.
Halal Love, le podcast. Bah, c'est super. C'est encore une autre façon de parler du mariage, d'informer les gens sur comment faire, sur aussi des pistes de réflexion, sur s'améliorer en tant qu'individu pour avancer vers le Halal Love, Inch'Allah, que je souhaite. Ah ouais. Grand nombre de célibataires qui le souhaitent, Inch'Allah.
Amine, je te remercie vraiment beaucoup, Sabrina. Une dernière question, peut-être comment on fait pour te contacter, pour te joindre? Tu as dit que tu étais beaucoup sur les réseaux, sous quel nom pour que les gens puissent un peu te retrouver?
Moi, donc mes réseaux, c'est Sabrina B, Sabrina plus loin B. Vous tapez juste Sabrina B sur Internet, vous allez trouver pas mal de choses, des vidéos YouTube, mon compte Instagram, Facebook et voilà comment me contacter. Et puis l'agence Abelny, c'est www.abelny.com avec un tout nouveau site tout beau, tout prêt pour les nouveaux célibataires, pour accueillir les célibataires, Inch'Allah.
Alhamdoulilah, bah on te souhaite énormément de réussite, que ce soit à travers l'agence ou à travers ton activité de coaching Sabrina B. Qu'Allah soit là, mette la baraka et fructifie tes efforts. On espère que la 9e année, c'est l'année des 5K au moins. Non, on te souhaite énormément de réussite, Inch'Allah.
Merci beaucoup, Madina.
À bientôt, Sabrina.
À bientôt.
Alors, les couilles.
Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
C'était Halal Love, le podcast qui cherche à s'aimer en Dieu pour semer mieux. J'espère que cet épisode vous a plu et j'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé, ce que vous avez choisi d'en retirer. Halal Love, c'est un podcast qui est conçu avec beaucoup d'amour et qui se nourrit du même ingrédient. Si vous souhaitez m'en envoyer un peu, beaucoup, passionnément, dites-le moi avec 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez 10 secondes et laissez un commentaire sympa, ça c'est si vous avez une minute. Si vous n'avez pas d'appareil Apple, aucun problème. Abonnez-vous sur l'application de votre choix, Spotify, Deezer, Google Podcast ou autre. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous, sur vos réseaux sociaux, auprès de vos proches, de votre famille, de vos amis. Un grand merci à celles et ceux qui le font déjà et ceux qui pensent à moi dans leur doura. Qu'Allah Azzawajal vous récompense de la plus douce des manières. Vous êtes géniaux, j'ai pas d'autres mots. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et vous dis à mardi prochain si Dieu veut. En attendant, peace et halal love sur chacun d'entre vous.